Bienvenue dans Spam.
C'est un programme qui permet de savoir un peu tout.
Internet ! Je sais pas.
Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous écoutez Spam, l'émission des internets et du numérique sur les ondes de Radio Pulsar au 95.9 et sur radio-pulsar.org. Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel libre et de l'open source, et si ces termes ne vous disent rien, pas de panique, l'équipe de Spam est là pour vous mettre à la page. Avec évidemment Théo pour les news.
Salut !
Denis, qui n'a pas pu s'empêcher de prendre un peu de liberté, qu'on entendra plus tôt que d'habitude.
Bonsoir.
Lucas pour sa chronique philo.
Salut.
Et Hugo à la régie.
Salut.
Et bien sûr, comme d'habitude, nous aurons le plaisir d'entendre Florian et Pulsaria pour une petite mise à jour sur le sujet. Pour parler open source, nous avons également le plaisir de recevoir Loïc Soulas, président d'Iliwi, société spécialisée dans le domaine. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec vous, nous allons revenir sur les enjeux liés à l'open source. On se demandera quel est l'intérêt de passer aux solutions libres. Mais avant tout ça, on va passer à la chronique d'actualité de Théo. L'enquête annuelle sur la diffusion des outils numériques dresse un panorama des usages numériques en 2019.
Cette enquête, diffusée par l'ARCEP, le Conseil Général de l'Économie et de l'Agence du Numérique, a été publiée le mercredi 27 novembre. Cette dernière a été réalisée sur un panel de plus de 2000 personnes interrogées en face à face. Parmi les résultats les plus importants, on note une nette augmentation du nombre d'objets connectés dans les foyers. Environ 16% des personnes interrogées en avaient dans leur maison. À côté de ça, le smartphone reste l'outil numérique le plus utilisé par les Français. Cependant, le baromètre soulève le fait que 66% des utilisateurs du smartphone n'ont jamais essayé de changer de navigateurs sur leur mobile. Enfin, au niveau de l'impact environnemental, l'opinion de la population s'est inversée par rapport à l'étude de 2018. Une majorité des personnes interrogées pensent que le numérique est une menace pour l'environnement, alors qu'en 2018, la majorité pensait que le numérique était avant tout une chance pour l'environnement.
Facebook lance une application qui permet de gagner de l'argent en échange de vos données.
Facebook lance Facebook Viewpoints le 27 novembre. Cette application a pour objectif de récompenser les personnes qui acceptent de participer à des études de marché, des enquêtes, à des recherches ou à certaines tâches. L'objectif est que ces informations permettent d'améliorer le réseau social, mais aussi ses autres logiciels dont il est propriétaire, comme Instagram, WhatsApp, Portal et Oculus. Le fonctionnement de l'application est le suivant. Lorsque vous la lancez, vous pouvez vous inscrire à certains programmes qui expliquent ce qu'ils souhaitent récolter comme données, ce qu'ils vont vous demander de faire. Ensuite, c'est à vous de choisir et de réaliser ces programmes. Vous êtes après récompensé en crédit et à partir d'une certaine somme, vous pouvez échanger ces crédits en monnaie PayPal. Facebook souhaite rassurer ses utilisateurs en disant que les données récoltées seront strictement réservées à son amélioration et qu'elles ne devraient pas être vendues à des entreprises tierces. Pour le moment, Facebook Viewpoints est seulement disponible aux États-Unis pour les personnes âgées de plus de 18 ans, mais la firme a déjà exprimé souhaiter exporter ce concept dans d'autres pays.
Adulact a remis ses labels Territoire numérique libre aux collectivités les plus engagées dans le mouvement du logiciel libre.
L'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales remet ce label à l'occasion du congrès des maires à Paris le 21 novembre. Le label Territoire numérique libre a pour objectif de récompenser les municipalités et agglomérations qui soutiennent les initiatives envers le libre. Pour obtenir ce label, les critères à respecter sont avoir une stratégie de migration vers le logiciel libre, le soutien des élus, la mutualisation des moyens informatiques et l'ouverture des données publiques. Au total, 32 collectivités ont proposé leur candidature cette année. Parmi les municipalités récompensées, dans la Nouvelle-Aquitaine, on retrouve seulement Angoulême et Châtellerault.
Merci Théo pour ta chronique. Loïc Soulas, je vous ai vu réagir sur la news sur Facebook.
Oui, parce que là, pour la peine, c'est l'antipode du libre ou du code open source, quoi. C'est-à-dire, ils proposent de récupérer des informations, mais on n'a rien qui nous permet de savoir vraiment ce qu'ils en font ou comment est traitée l'information, quoi. C'est tout le problème du logiciel privateur, quoi. Mm-hmm. C'est qu'on n'a pas de vision de ce qui peut se passer avec nos données.
Oui, c'est ça. Moi, je m'interrogeais sur justement la transparence. Est-ce qu'on sait, on parle d'optimisation des logiciels, mais est-ce qu'on sait concrètement quelles applications précises serviront à quelles données précises récupérées serviront à quoi? Est-ce que tout est clair, tout est transparent?
Alors la promesse, c'est que oui, ce soit transparent. Après, du coup, c'est un logiciel qui est, enfin, c'est une application qui est disponible seulement aux États-Unis, donc je peux pas voir dans les faits ce que ça donne. Le Facebook dit que normalement, c'est juste pour son l'amélioration de lui et de ses autres logiciels. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, par exemple, à l'abri que Facebook. Enfin, je sais pas, mais il y a quand même un peu un manque de confiance en ce réseau social, notamment au niveau de sa protection. Et il y a moyen que, par exemple, ce soit des données qui puissent être volées à un autre moment. Donc voilà. Quand on sait que par exemple aujourd'hui Facebook et je sais plus si c'était Instagram ou WhatsApp ont buggé, on sait pas trop pourquoi, on peut avoir un petit peu peur à ce niveau-là.
Lucas, mais est-ce que cette démarche-là, elle est pas honnête dans la mesure où Facebook, bah, il joue carte sur table et dit bon bah, voilà, on peut échanger des données contre de l'argent. Est-ce que quelque part, rien que le fait, même je pense que l'argent qu'on gagne grâce à ça, il est dérisoire, mais est-ce que ça peut pas faire évoluer les mentalités, que les gens en fait se rendent compte tout simplement que en laissant comme ça des traces d'informations partout derrière soi, on fait gagner à terme de l'argent à ces grandes plateformes.
Alors, bah, pour moi, ma vision, c'est que la big data et tous ces domaines-là, là, qui est le nouvel or en fait de l'informatique, n'apporte pas ce que devrait apporter l'informatique. Quoi. L'informatique, c'est un gros calculateur qui apporte de la simplicité, de la rapidité dans les calculs et dans la mémorisation des choses. Donc, la big data, à part un enjeu financier, il n'y a pas d'enjeu d'apprentissage, de facilitation, d'avoir des atouts pour l'écologie ou autre chose, je ne sais pas quoi. C'est vraiment financier quoi.
Moi je me pose une question sur ces données, c'est-à-dire qu'on parle de WhatsApp, mais par exemple si j'ai accepté Facebook Viewpoint mais que je parle avec quelqu'un qui ne l'a pas accepté, quelque part les données de cette personne seront également collectées, non?
Alors les applications de Facebook Viewpoint telles qu'elles sont expliquées, c'est que en fait vous vous inscrivez à des programmes, par exemple celui qui est le premier à être publié, c'est s'appelle Wellbeing Survey. C'est une étude qui concerne le bien-être des utilisateurs des services de Facebook, et en gros c'est un questionnaire auquel vous répondez, et en gros vous êtes rémunéré pour répondre à ce questionnaire. Donc normalement c'est pas censé prendre toutes vos données, toutes vos utilisations sur Facebook. Ça, il le fait déjà autrement, mais vous n'êtes pas rémunéré.
Denis ?
Oui, je me disais, on va peut-être attendre que ça arrive par chez nous, et puis ça risque de se heurter déjà à des réglementations récemment mises en place, je pense à la RGPD. Enfin, est-ce qu'à un moment, il va peut-être y avoir un blocage par chez nous ? Est-ce que ça va atteindre nos contrées ? Et puis, comme tu le disais, à juste titre, il va falloir aussi avoir un petit temps d'observation sur les États-Unis et voir ce que ça donne concrètement. Avant de se faire un réel avis, même si, à mes yeux, et ça n'engage que moi, je trouve ça assez dangereux. Hein, c'est...
oui, bah...
Vendez votre âme.
Vendez votre âme. Alors, tout de suite, on va s'écouter une petite capsule sonore de Florian et Pulsaria qui vont nous introduire et nous définir le sujet du jour, l'open source.
Mise à jour en cours d'installation.
Bonjour à tous et bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous connecte au sujet de l'émission. Et ce soir, j'ai pas une seule minute à vous accorder, hein, désolé. Et comme mon assistante vocale n'est pas fonctionnelle, vous n'aurez pas de chronique.
Comment ça ? Je ne vous permets pas de laisser nos auditeurs ignorants, c'est votre travail tout de même.
Depuis quand tu me donnes des ordres, toi ? Il me semble pas que dans les trois lois de la robotique, il y a un décret spécifique te permettant de faire ça, mais... Je sais pas pourquoi je m'évertue à te parler puisque je n'ai pas de temps à t'accorder à toi non plus.
Mais enfin, qu'est-ce qui peut vous prendre autant de temps humain ? Habituellement, vous passez vos journées à regarder en boucle les vidéos du joueur du grenier et à écouter du Katy Perry.
Hop, là tu n'es pas obligé de tout dévoiler à nos auditeurs. Bon, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, j'ai décidé de sauter le pas. Je vais installer une distribution de Linux sur mon ordinateur pour remplacer Windows 10.
Linux ? Seriez-vous en train de faire votre coming out de libriste ?
Disons que je ne me définirais pas comme un libriste, petit surnom donné aux adeptes de l'informatique libre, mais j'essaye tout de même de trouver des alternatives à mes habitudes de consommation numérique. Mais attends un petit peu.
Quoi ? Qui a-t-il ?
Ne serais-tu pas en train de me faire parler du sujet de l'émission à mon insu ?
Oups, je suis démasqué. Mais vous aviez l'air bien lancé, alors allez-y, parlez-nous de l'informatique libre.
Bon, j'ai cru comprendre que ce soir, on allait surtout parler d'open source. Et il y a une petite nuance, mais pour bien la comprendre, reprenons du tout début. Le libre prend ses origines dans les années 70, quand seul le matériel informatique était source de revenus. Les logiciels installés dessus n'étaient donc que des arguments de vente et n'avaient pas de licence d'utilisation. Cependant, de plus en plus d'entreprises se sont mises à commercialiser des logiciels en y apposant une licence d'utilisation payante afin d'être rémunérées. C'est un ancien chercheur au MIT, Richard Stallman, qui va renverser la balance. En effet, Frustrés à l'idée de ne plus pouvoir étudier les logiciels à cause notamment de la fermeture des codes qui les composent, il décide de lancer son propre projet de système d'exploitation totalement libre, gratuit et accessible à tous. C'est le célèbre projet GNU que l'on retrouve encore aujourd'hui quand on parle grossièrement de Linux. Il a ensuite fondé la Free Software Foundation, la fondation du logiciel libre, mais attention, c'est pas parce qu'on dit logiciel libre qu'ils sont gratuits. La fondation du logiciel libre encourage au contraire l'utilisation commerciale des logiciels libres tant qu'ils respectent quelques libertés fondamentales.
Ce ne sont donc pas des freeware ou gratuitiels en français.
Non, en effet, même si la plupart des logiciels libres sont gratuits. Et quitte à ne pas confondre libre et gratuit, il ne faut pas non plus confondre libre et open source. Car même si l'open source mise sur l'ouverture du code source des logiciels, il ne répond pas à la même philosophie que le logiciel libre. En fait, la notion d'open source est définie par l'Open Source Initiative et rassemble les logiciels librement redistribuables et dont le code source est accessible par tous. Dans un sens, tout un chacun peut s'intéresser au code pour comprendre comment fonctionne le logiciel. Si la plupart des logiciels libres sont open source et vice-versa, il existe une différence entre ces deux mouvements qui sont historiquement opposés. Car en effet, si les adeptes du logiciel libre défendent une philosophie de l'informatique et une idée politique de la justice, les adeptes de l'open source, eux, s'attachent plus aux opportunités techniques offertes par l'ouverture du code source. Car en effet, ouvrir le code source, c'est laisser l'occasion à de nombreux développeurs de se pencher dessus, permettant au logiciel de bénéficier de l'expérience de plusieurs professionnels.
Très bien, je ferai en sorte de ne pas tout confondre alors. Et bien humain, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps.
Tu t'es bien joué de moi, et ça te fait rire en plus. Bon. J'espère que cette petite chronique aura éclairé la lanterne de la plupart d'entre vous et qu'elle vous permettra de mieux saisir la suite de notre émission. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Spam.
Alors Pascal Soulas, est-ce que cette chronique et cette petite définition offerte par Florian et Pulsaria vous convient ?
Elle est juste, ouais. Ah, elle est très juste, c'est ça. Ouais. Faut bien faire la différence entre open source, libre, et puis Linux. Hein. Linux, c'est un Linux GNU, Linux même, je dirais. Faut bien définir les deux. C'est des systèmes d'exploitation comme on peut en connaître, hein, qui permet de s'interfacer avec l'ordinateur. Alors que le libre, c'est vraiment une licence. Comme il pourrait avoir une licence, n'importe qui met une licence, ils ont créé une licence qui donne des obligations. Alors c'est plus des obligations de liberté de faire des choses, contrairement à certaines autres licences que d'autres groupes. Mais ouais, faut bien faire la différence. Ouais, il y a le libre qui est une licence qui permet de donner la liberté aux gens d'utiliser les choses comme ils veulent. Et après il y a Linux et GNU Linux qui sont le système d'exploitation qui lui a pris une licence libre justement. Mais c'est bien expliqué. Hein, dans le...
Donc, on a quelque part un système... Est-ce qu'on a des valeurs différentes entre l'open source et le libre ?
Alors, du fait que la fondation libre, donc Richard Stallman, s'est mise en place, eux, ils jouent beaucoup et sur la liberté d'utiliser, de distribuer. Voilà, c'est vraiment sur la liberté d'un bien. Alors que l'open source, lui, il est vraiment sur que... plus technique, quoi. C'est l'ouverture du code d'un logiciel. Le libre, la licence libre, va bien plus loin en fait. Elle va même sur des problématiques dans des pays où il pourrait y avoir des problématiques de compréhension de ce qu'est le libre pour que ça passe les frontières en fait. Que le libre passe les frontières. Ça va plus loin que l'open source.
Ok, Lucas ?
De quoi ? J'acquiesçais. Bien sagement.
C'est pour ça que souvent on dit que le libre, c'est un peu c'est les barbus en claquettes, quoi. C'est les extrémistes de l'informatique dans ce domaine-là. Et l'open source, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment un autre domaine, quoi.
L'open source, c'est un autre domaine. Et par opposition, on a les logiciels propriétaires. Et même Richard Stallman disait que les logiciels propriétaires nous privent de liberté. Et on peut avoir du mal à saisir pourquoi, en quoi un code inaccessible est un danger pour nos libertés.
Alors, moi, j'en ai une vision, ce serait plus dans l'éducation. Dans l'éducation, quand on veut apporter un savoir, si on ferme le savoir, on l'apporte à personne, en fait. Hein. C'est à partir du moment où on ouvre notre savoir, le savoir est partagé, il est bien plus grand, bien plus fort, et on évolue. L'évolution humaine est liée à ça. Donc, si on crée un logiciel privatisé, on ferme le savoir, on donne juste de l'utilisation. Mais personne peut dire, par exemple, à l'école, on va arriver, j'ai lu un livre, ah bon, c'est quoi ton livre ? Ah non, il est privé, je peux pas te le lire. C'est quand même un petit peu bête. Alors que le libre va permettre de dire, j'ai lu quelque chose, je vous apporte mon savoir, voilà ce que j'en ai compris, on va faire une étude, est-ce que je peux étudier le code du livre ? Oui, bien sûr, tu peux l'étudier, tu peux le partager, prête-le à ton copain. Ça, c'est le libre. Donc, ça ouvre beaucoup de choses. Alors que le système privatisé ferme tout ça.
Très bien. Et c'est peut-être j'ai l'impression que le mouvement du partage est poussé par le fait que un bien numérique, ça se reproduit beaucoup plus facilement aussi. On parle pas d'un prêt de livre, on parle d'une copie.
Alors, je sais pas si on peut parler d'une copie en soi, quoi. C'est un peu dans l'esprit où avant on achetait un CD et on pouvait le prêter à son copain, à son voisin, à quiconque. Là, on est pareil, on a un logiciel, on le trouve bien, il est libre, on fait, ah bah tiens, regarde, prends-le, je te le prête. Si le CD est privatisé, avec les DRM, hein, c'est les licences de blocage numérique, là, bah, on peut plus prêter, quoi, en fait. Et c'est une perte de savoir, c'est une perte d'échange, en fait.
Ok.
Alors, okay. Vous faisiez la comparaison tout à l'heure avec justement la propriété intellectuelle dans l'édition. Donc, un livre, évidemment, on peut le prêter, mais c'est pas pour autant qu'on peut, par exemple, le citer ou le copier mot à mot. On fait ce qu'on appelle, un plagiat. Est-ce que la comparaison, finalement, elle s'arrête sur cet exemple-là? Entre un logiciel et un livre. C'est-à-dire que le logiciel, c'est le contenu du code, finalement, qui est important. Est-ce que, finalement, le domaine du plagiat, il est possible dans le monde du logiciel?
Le plagiat, alors dans la licence libre, il est...
Non, dans la licence libre, oui,
ouais,
bien sûr.
Dans la licence libre, il est demandé. Hein. C'est une liberté, justement. Hein. C'est de dire, faites-le vivre, faites-le évoluer. Alors, dans le livre, effectivement, si on reprend un texte tel quel, déjà, d'une,
c'est pas très sympa.
C'est pas très sympa, puis c'est pas très utile, ça montre pas trop le savoir d'écrire. Mais je pense que dans la lecture, on peut lire 5 livres différents, s'en inspirer et réécrire son livre en s'inspirant de l'écriture qui a été faite. Dans le logiciel libre, on va récupérer des morceaux de code, on va peut-être les faire évoluer. On est un petit peu plus libre, on peut reprendre tel quel un code et le redistribuer comme on veut, quoi. Effectivement, il y a quand même une différence là-dessus, quoi. Mais sur le partage, on est sur le même après.
D'accord.
On va passer tout de suite à la suite. On s'écoutera Anarchy Road une autre fois peut-être.
On n'a pas besoin de pause.
On n'a pas besoin de pause, effectivement. Alors, pour cette émission, je me suis replongé un peu dans les souvenirs que j'avais de l'open source. Et par le passé, il s'avère que Linux a déjà sauvé un de mes PC de la faim. Alors, si vous êtes néophyte, vous me direz Linux, c'est quoi? Je vous répondrai à un système d'exploitation comme macOS ou Windows. Et si vous êtes un peu plus connaisseur, vous me répondrez lequel? Ubuntu, Mint, Debian, Fedora, même les gendarmes ont leur version Linux avec Gentbuntu. Et elle est peut-être là la force de Linux dans ses déclinaisons. C'est évident, nous n'avons pas tous le même usage d'un ordinateur. Et si votre système d'exploitation pouvait être constamment audité, analysé, patché par une communauté d'autres utilisateurs, pouvait vous garantir la sécurité et la stabilité de votre système. Dit comme ça, c'est tentant, ce genre de solution, il faut l'admettre, mais ça se heurte à quelques réticences, j'ai l'impression, de la part du grand public. Pour commencer, Loïc Soulas, j'aimerais vous demander pourquoi on a l'impression que l'open source, c'est quelque chose qui se réserve aux personnes expérimentées, voire très expérimentées en informatique.
Alors, ça reste un domaine un peu compliqué du fait qu'il est très difficile de trouver un ordinateur sous Linux déjà préinstallé. Je pense qu'un néophyte de l'informatique, si on lui demande d'installer un Windows, par exemple, ou un Mac, il aurait du mal à installer. Donc, installer un Linux, c'est aussi compliqué. C'est pas plus simple, pas plus difficile, c'est pareil. Mais comme il y a des lois qui font qu'on se trouve que du Windows dans le commerce, on se trouve sur Windows, quoi. Si on vendait des PC sous Linux avec du Ubuntu ou autre chose comme ça, je pense que les gens n'y feraient pas vraiment la différence, n'auraient pas la complexité en fait de l'informatique de l'installation.
Et c'est la faute aux constructeurs du coup?
Alors les constructeurs, alors là c'est large en fait. Je vais pas trop dire de bêtises, mais c'est quand même assez large, hein. Légalement, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on puisse trouver des PC avec Linux ou sans OS dans les magasins. Ils ont perdu, hein. Et donc ça veut dire que légalement, un magasin peut nous dire non, c'est sous Windows et point barre. Et ça c'est un gros problème pour pouvoir démocratiser et que les gens aient moins peur de Linux, quoi. Ça fait très peur de devoir réinstaller un système quand même. C'est pas rien.
Denis, il me semble que tu avais une question.
Oui, non, c'était au-delà de la question, c'était se dire surtout, vous parliez de l'éducation tout à l'heure, et peut-être que ça peut être une des clés d'entrée en fait pour résoudre ce souci-là. On a souvent l'impression que l'informatique ou certaines applications de l'informatique s'adressent à des experts, voire des professionnels, mais au final, si on prenait ce bout-là par l'éducation, en éduquant, alors peut-être pas dès le plus jeune âge, mais on sait qu'il y a de l'éducation au code maintenant en collège, mais dès ces âges-là, ça pourrait être de l'installation Linux, mais aussi de la maîtrise de cet outil libre, se dire qu'une génération entière pourrait évoluer avec ce système d'exploitation qui ne coûte pas un rond. Puis, on a quand même la chance de trouver quelques PC dans le commerce qui n'ont pas de système d'exploitation. Mais c'est vrai qu'ils font un peu peur au public.
Alors, moi, sur l'éducation, ouais, je suis 100% d'accord. C'est là qu'il faudrait commencer.
Lucas,
un bon truc pour retrouver des PC sans système d'exploitation, il faut s'adresser directement au site des constructeurs. Si vous demandez directement, enfin si vous demandez, si vous commandez des ordinateurs directement sur les sites des constructeurs, en général, il y a toujours une option où vous pouvez choisir votre OS et éventuellement ne pas demander de ne pas en mettre.
Théo, mais du coup, sur des personnes qui sont déjà hors du système d'éducation, qui sont assez âgées, qui ont des a priori, comment est-ce que on les amène justement à aller vers le libre? Comment est-ce qu'on peut, là maintenant, avec les solutions d'aujourd'hui, diminuer cette peur que véhicule le libre?
Alors pour les personnes, alors je sais pas à quelle tranche d'âge, mais il y a une tranche d'âge qui va être en dessous senior. Là, le libre, le seul moyen qui puisse vraiment, ou du moins le système d'exploitation, donc nous Linux, le seul moyen qu'ils peuvent le connaître, c'est grâce à leurs petits enfants, leurs enfants, et choses comme ça. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on va appréhender d'un seul coup. Donc, mais tant qu'effectivement on l'a pas mis dans l'éducation, que ça a pas été quelque chose qui est compris, qu'il y a pas que un système d'exploitation mondial qui existe, que c'est très vaste et très très large, on n'arrivera pas à démocratiser en fait le choix. Les gens ont droit de choisir Microsoft, mais il faut lui faire comprendre qu'il y a plusieurs choix, quoi. On n'est pas limité à un seul système d'exploitation dans le monde.
Oui, d'ailleurs, c'est dans la philosophie de Linux. On peut avoir un dual boot, c'est ça? Choisir son système d'exploitation au démarrage, passer par Linux ou Windows, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, ouais, exactement.
Ouais, potentiellement sur un Mac aussi. Est-ce que c'est installable sur tous les, c'est ça, sur tous les modèles de PC? Finalement.
Alors, c'est là où se battent les gens du libre, de l'open source aussi, ou de tout cela. C'est ils étudient les codes et ils essaient de comprendre le matériel qui est souvent propriétaire pour adapter des codes libres au matériel propriétaire. Donc, il y a souvent des petites problématiques liées à du matériel où on connaît pas le code et on peut pas s'adapter dessus, mais ils font tout pour que ce soit adaptable sur environ, 90% du matériel informatique qui existe dans le monde, quoi. Donc oui, on peut un peu parler, c'est pas toujours simple, hein.
Denis?
Oui, je voulais rebondir sur la question de comment faire entendre ça aux seniors, ou du moins comment leur offrir, pareil, une clé d'entrée. J'aime beaucoup ce mot-là, c'est décidément. Une clé d'entrée, on le voit souvent dans des ateliers, dans les maisons de quartier, par exemple, ou ce genre d'initiative-là. Ça passe aussi beaucoup par la formation, en fait. C'est-à-dire que tu parlais d'un Linux version gendarme. Il suffit que telle ou telle entreprise se dise, tiens, je vais passer sous Linux et donc je vais mettre tout mon fonctionnement sous Linux. Et au bout d'un moment, par la formation, les employés vont être obligés d'y passer, enfin obligés, oui, vont être, oui, contraints d'y passer, mais ça peut être aussi un bon point pour le libre. Et puis donc les seniors, ils ont aussi tout un tas d'initiatives qui existent, même si effectivement dans ces ateliers-là, on retrouve quand même pas mal d'initiations à Windows, voire même à Mac.
Et même pourquoi pas un Linux prévu pour, je sais pas, les collégiens, les lycéens, tu vois, à plus petite échelle, on pourrait.
Alors ça existe, hein.
Il
y a plein de distributions pour l'éducation qui existent, qui sont faites souvent pour des enseignants.
En fait, il faudrait qu'elles soient poussées à plus grande échelle par l'éducation nationale ou quelque chose.
Alors il y a un souci par rapport à ça, c'est que l'éducation nationale a signé quand même des marchés avec Microsoft, qui freinent énormément la progression de systèmes libres ou libres dans l'éducation nationale. Ouais.
Théo,
mais sinon, comme le montrait là, comme j'en parlais dans la news, le baromètre du numérique 2019, l'un des outils numériques les plus utilisés, c'est le téléphone portable, c'est le smartphone. Et moi, quand je pense au libre, je pense quasiment pas au smartphone. Est-ce que c'est difficile d'aller vers des logiciels libres? Comment est-ce que ça fonctionne là-dessus?
Alors, comme le smartphone, alors pour Android.
Ouais.
Je parlais il contient un Linux. Il contient le noyau Linux, hein. Il contient pas GNU, son système d'exploitation, c'est Android, mais il contient un Linux. Android en lui-même, le code est ouvert. Et après, on peut se forcer à installer que des applications libres. Mais à partir du moment qu'on installe des applications privatives, donc, particulièrement de Google ou d'autres, on perd cette liberté sur notre téléphone. Mais, il y a une toute petite part, on peut pas parler de libre sur Android, hein, mais il y a une toute petite part dedans qui est, et il y a des systèmes d'exploitation, il y a Lineage OS ou d'autres qui sont en train de sortir pour pouvoir s'adapter sur les téléphones Android et en faire un système complètement libre. Mais à partir du moment où on va installer un WhatsApp ou quelque chose, on s'est foutu. Exactement. Donc c'est là où c'est compliqué dans le smartphone, c'est que les gens sont tellement habitués à utiliser des applications. Même moi, professionnellement, je veux dire, dans mon métier, j'ai des clients qui vont me demander de mettre WhatsApp. Je casse ma philosophie sur mon téléphone du libre. Donc ça c'est encore super compliqué, je pense.
D'accord. Lucas?
Alors, ça rejoint un petit peu cette question vis-à-vis des smartphones, mais est-ce que dans le monde du libre en général, il n'y a pas un petit problème d'UX design? d'interface utilisateur et de facilité d'utilisation. Parce que là où justement, par exemple, Apple marque des points, c'est justement dans ce design qui est très intuitif, qui est facile d'utilisation, que ma grand-mère peut utiliser comme un enfant de 3 ans. Et ça, c'est peut-être encore ce qui manque pour aller vers le libre. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des exemples de logiciels libres qui sont nickel du point de vue design utilisateur?
Alors sur smartphone, j'en ai pas en tête comme ça. Dans le monde de l'internet ou des systèmes collaboratifs de travail, il y en a qui sont très très bien faits. Il y en a un qui vient de passer justement, je crois, dans un ministère du gouvernement, c'est Nextcloud. C'est un petit peu, ça permet de faire du partage de fichiers. Et il est plutôt bien fait, et il ressemble à pas mal d'autres. Il va y avoir, mais c'est vrai qu'en UX design, donc pour l'interface utilisateur, souvent le temps de faire quelque chose qui fonctionne très bien, eh ben on enlève le côté joli. Oui. Voilà. Et le côté joli, ça coûte cher après à mettre, quoi. C'est beaucoup de choses, mais c'est du temps en fait. Et plus de développeurs travailleront sur les projets, et j'espère un jour des UX designers dans le libre, eh ben on aura des choses abouties, quoi.
Denis.
Enfin, de toute façon, le libre, pour moi, deux ennemis, c'est l'esthétique et le marketing. Voilà. Déjà, quand ils arriveront à contourner ces obstacles-là, à mon avis, on verra une plus grande démocratisation du libre.
Bah, je pense que dans le monde du libre, il y a beaucoup de développeurs, d'informaticiens, de gens, voilà, qui sont là-dedans. Mais et dans une entreprise comme Apple, où il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que des développeurs, des informaticiens. Il y a des commerciaux, il y a des designers, il y a des gens qui. Donc ça fait un tout, hein, qui crée justement ces applications-là à la fin.
Il faut pas oublier que la majorité des personnes aussi sont bénévoles finalement, non?
Ah non, il y a des gens qui sont rémunérés pour travailler dans le libre, hein, quand même. Non.
Oui, ok, pour des...
Et des très grosses sociétés mondiales travaillent pour le libre. Hein. Oui. Google, Apple, Microsoft apportent leur... Parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, la licence les oblige un peu. Mais ils apportent beaucoup d'évolution au monde du libre.
Et on a l'impression même qu'on ne se rend pas trop compte de ce qui est open source ou libre autour de nous. Je crois que... WordPress, par exemple, est une solution. Si je dis pas de bêtises, je crois que WordPress est en open source, peut-être.
Alors oui, puisque de toute façon, on peut la télécharger, on peut avoir le code complet, on peut l'installer sur son propre système, on peut le redistribuer, donc ça garde la licence. Ah, je sais pas si c'est la licence GNU/GPL, la libre de Richard Stallman, mais en tout cas, le principe y est, quoi.
Le principe y est. Très bien, on va maintenant passer à la suite et à notre chroniqueur jeux vidéo. Aujourd'hui, le conducteur prend une liberté folle et totale. Donc aujourd'hui, Denis, tu vas nous parler du jeu à la sauce libre.
Oui, puis comme tu le disais, on m'a dit libre sur le net, libre sur le web. Bon, j'ai pris des libertés. Sauf que cette fois-ci, je me suis permis de prendre les choses sous un autre angle et je vais vous parler en fait de jeux indépendants. C'est une forme de liberté, hein. Les initiatives libres sont l'exemple même d'une volonté d'indépendance et j'ai souhaité vous montrer ce que ça donne dans le jeu vidéo. Et sans parler de Linux.
Ah oui, donc le jeu indé, ça vient d'où ?
Mais le jeu vidéo n'a pas attendu le web et internet pour avoir son lot d'indépendance et d'indépendants. Si quelques tentatives de jeux indés ont été faites sur l'Atari 2600 à la fin des années 70, cette période obscure n'a jamais abouti sur grand-chose, malheureusement. En revanche, dès 82, avec la démocratisation progressive, j'ai bien dit progressive, du personal computer dans les foyers, avec le Spectrum, la Commodore 64, on commence à voir apparaître les premiers jeux amateurs, indépendants, libres, poindre et se transmettre grâce à une autre invention magique, le floppy disk, la disquette. Mais face à un marché global du jeu vidéo grandissant par le jeu indé s'est très vite retrouvé marginalisé, écrasé par des grosses entreprises connues et reconnues, aux centaines de millions de Game Boy, PlayStation et autres consoles vendues avec leurs jeux à licence, produits et édités par ces mêmes grandes boîtes. Une sorte de concurrence déloyale en somme.
Ok, dans ce cas-là, comment définir le jeu indé ?
L'histoire part d'elle-même. Et c'est pour ça qu'il est important de la relater. Je vous laisse me la piquer, celle-là. C'est donc précisément cette histoire de concurrence déloyale qui mène les développeurs de jeux indé à vouloir se démarquer, et ce de plusieurs manières. On distingue donc deux grands champs de développeurs, de développeurs et de jeux indépendants. Ceux qui souhaitent apporter une distinction artistique, se voulant novateurs, tant dans la DA que dans les éléments de gameplay, et refusant l'influence des tendances mercantiles, et ceux souhaitant s'éloigner des modèles économiques classiques, refusant les financements externes, liés notamment aux éditeurs et privilégiant l'autonomie complète. Ceux-ci répondent à la définition classique du jeu indé. Bien sûr, rien n'est figé dans le marbre, et ces grandes tendances sont compatibles entre elles, et ont même eu de nombreux petits. Mais pour revenir sur l'aspect historique, c'est à l'orée des années 2010 que le jeu indé refait vraiment surface, mais non sans aide. D'un côté, avec la montée en puissance des réseaux sociaux et la démocratisation d'un internet plus rapide, les développeurs indés gagnent en visibilité et du même coup la possibilité d'envoyer plus facilement des versions de test aux équipes de presse. De l'autre, deux acteurs majeurs ont permis cette renaissance, le crowdfunding et les éditeurs. Ces derniers sont même les premiers à avoir porté des jeux indépendants sur le devant de la scène. Oui, vous avez bien entendu, ouais. des jeux indépendants sur le devant de la scène par des éditeurs. On va prendre les cas d'Aquaria et Bread, deux représentants de ce boom des jeux indés. Aquaria, c'est un jeu d'aventure aux allures de Metroidvania sous-marin qui est sorti en 2007 sur PC de manière pleinement indépendante. Il a rapidement atteint la plateforme Steam, donc là, zéro indépendance hein, en soi, mais entre succès critique et visibilité donnée par la plateforme, le jeu devient rapidement un véritable succès global. Et cette success story, pour ces deux développeurs originels, fait qu'ils prendront par la suite des chemins très différents. D'ailleurs, il y en a un qui est malheureusement décédé. De son côté, Bread, jeu de plateforme mécanique temporelle, est sorti via l'initiative Xbox Live Arcade, abrégé XBLA. Développé pourtant de manière indépendante, ce coup de pouce de Microsoft a permis de mettre sur le devant de la scène un paquet de jeux indés maintenant devenus cultes. Limbo, Castle Crashers, Super Meat Boy et j'en passe. On pourrait alors remettre en cause l'indépendance de ces jeux. Et pourtant, sachez que ces jeux ont été développés sans aucun regard de Microsoft. Et enfin, en 2012, le crowdfunding, aussi appelé financement participatif, a donné naissance à ses premiers jeux financés par le public partiellement ou quasi complètement. Je pense à Pillars of Eternity, Wasteland 2, Broken Age, etc. Ce type de financement a encore une fois permis à ces titres de gagner en visibilité pour finalement se faire éditer ou compléter leur financement.
Alors le jeu indé, c'est une grande et belle famille heureuse.
Bah, si tu aimes les familles aux tendances incestueuses et cannibalistiques, on pourrait dire ça. Parce que si les éditeurs acceptent plus ou moins aveuglément d'éditer des jeux sans regard sur l'artistique, ceux-ci ont bien compris qu'il y avait un marché à exploiter. C'est ce que j'ai osé appeler le marché des petits jeux. Par exemple Ubisoft avec Child of Light et Soldats Inconnus, Electronic Arts avec Grow Home, des gros éditeurs qui ont pris pour optique de mettre de petites équipes avec de petits budgets, alors vous imaginez les guillemets, on est à la radio, pour faire de petits jeux. L'idée, c'est surfer sur la vague indé à grands coups de com' pour toucher la corde sensible du jeu fait main, qui fait succès, qui fait le succès des vrais jeux indés, sans tenir compte du risque d'affecter le jeu indé, le vrai, ses développeurs et leur salaire. Donc difficile aujourd'hui, près de 10 ans après le grand retour du jeu indépendant sur le devant de la scène, de savoir exactement ce qu'est un jeu indé. Les variantes et possibilités sont aujourd'hui multiples, entre jeux non financés mais édités par des pontes, jeux financés et édités sans regard sur l'œuvre, jeux développés, financés et édités par des gros du jeu vidéo. Encore une fois, chers auditeurs, je vous invite sur cette question à explorer cette galaxie et à forger votre propre avis.
Merci Denis pour ta chronique. Lucas, tu voulais réagir ?
Ouais, j'ai deux petits points que j'ai relevés pendant ta chronique.
Ah, oui.
Non,
oui,
c'était pour dire que un jeu qui arrive sur Steam, il est pas moins indépendant. C'est juste un système de distribution et c'est vraiment pas compliqué de mettre son jeu sur Steam. Hein. Il suffit d'envoyer un exécutable qui plante pas et un chèque de $100. Hein. C'est ouais. Vraiment ridiculement facile d'envoyer un jeu sur Steam. Un autre truc, c'est si jamais vous voulez en apprendre plus, il y a un super documentaire qui est sorti en 2012 qui s'appelle Indie Game the Movie. Qui revient justement sur ce retour en force au début des années 2010 du jeu indépendant. On y suit notamment Edmund McMillen, donc le développeur de Super Meat Boy, Phil Fish, le développeur de Fez, et Jonathan Blow, le développeur de Braid. Voilà.
Pascal Soulas, est-ce qu'on peut jouer sur Linux?
Oui, on peut jouer. Alors moi, je suis pas du tout un joueur. Je vais pas vous aider trop là-dessus. Okay. Mais on peut jouer. Il y a des jeux. Alors effectivement, graphiquement, c'est peut-être pas les meilleurs du monde, mais il y a des jeux. Ça existe. Et puis, alors, si vite fait, Linux, je sais pas si, mais GNU Linux, du moins, c'est une super plateforme pour pouvoir faire du rétro gaming. C'est-à-dire jouer à des vieux jeux si on veut installer une Nintendo.
De l'émulation.
Une Game Boy, voilà, faire de l'émulation. Franchement, ça marche super bien et on peut faire des petites consoles de salon qu'on met sur sa télé pour faire du rétro gaming grâce à des boîtiers type Raspberry Pi et tout ça. Donc, si ceux qui connaissent. Et donc, ça marche super bien.
En fait, on peut reconstruire nous-mêmes une vieille console de jeu.
Ouais, même les boîtiers se vendent. Hein, une vieille boîte de Super NES se vend pour mettre dedans un Raspberry Pi et en faire une console de salon, quoi.
Denis, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, non, mais je veux juste rajouter que moi, la chronique que je viens de faire n'est pas du tout exhaustive et effectivement, j'ai pas parlé de Linux, mais on peut jouer sur Linux, vous avez tout à fait raison. Pour l'émulation, c'est vrai que c'est parfait, enfin, moi je le vois à la maison. Et puis, surtout, il y a encore aussi des gros jeux aujourd'hui hein, qui sont édités sous Linux pour faire plaisir au plus de monde possible. Donc, voilà. Et je te remercie pour les précisions apportées et je vous recommande aussi hein, ce documentaire qui est très très bien. Et puis de toute façon, allez explorer cette galaxie comme
bon,
je le disais.
Tu as été assez sage, je vais te laisser filer pendant Anarchy Road de Carpenter Brut. Ah non.
Non.
Pas sur OK. Sur The Heavy Short Change Hero. We'll be right back.
Ok, il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer.
Voilà.
Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie.
C'était Short Chain Hero par le groupe The Heavy. Loïc Soulas, je vous ai appelé Pascal. Vous m'avez fait signaler en antenne, je m'en excuse. Montecos et moi-même, on n'est pas très réveillés aujourd'hui. Mais pour nous réveiller, on va passer à notre chroniqueur philosophie qui sera, sans nul doute, nous donner la pêche pour la suite de l'émission. Donc du coup, c'est à toi, Lucas. Logiciel libre et philosophie, le sujet était facile cette semaine un peu.
Oui, plutôt. Donc ce soir, on parle ensemble d'open source et de logiciel libre sur Spam, et on va voir ensemble que ces concepts portent des interrogations plutôt complexes. Alors déjà, dans le logiciel libre, évidemment, il y a libre. Et la liberté, bah, c'est certainement un des sujets les plus riches de la philosophie. Au-delà des questionnements juridiques de licence, de base légale, il convient de se demander sur quel fondement philosophique se fonde le logiciel libre, et quelle est en fait la liberté qu'il revendique. Finalement, la question de la philosophie intervient justement dans la définition même du logiciel libre et dans sa distinction avec l'open source.
Tu veux dire que les codeurs font aussi de la philo ?
Eh oui, ceux qui sont à l'origine de ces mouvements, en tout cas, sont bien conscients de leurs positions respectives. Le mouvement pour le logiciel libre a défini des règles sur des principes éthiques, alors que le mouvement pour l'open source a proposé, pour sa part, des solutions en fait techniques et légales pour proposer un modèle plus pragmatique et qui s'insère en fait dans une économie de marché. Grosso modo, les défenseurs de logiciel libre pensent que le libre, c'est une affaire de philosophie et d'éthique, alors que les partisans de l'open source défendent d'avoir une démarche qui n'est pas de cette nature.
D'accord, mais au-delà de cette différence, c'est quoi le fondement, ce fondement philosophique du logiciel libre ?
Eh bien, vous en doutiez, bah, c'est la liberté, mais pas n'importe laquelle. La liberté, c'est un peu le piège par excellence de la philo, parce que c'est un terme qui est extrêmement polysémique. La liberté peut être définie d'une multitude de manières différentes, et la liberté, par exemple, de modifier un logiciel, bah, c'est pas la liberté de tuer quelqu'un, ni la liberté de choisir thé ou café le matin, ni même la liberté qui est écrite en capitale sur les frontons de nos mairies. Le logiciel libre, s'il revendique une certaine philosophie, ne se risque pas vraiment à définir la liberté de manière rigoureuse. Il ne fait que donner des libertés particulières à ses utilisateurs. La Free Software Foundation, dont on a parlé tout à l'heure, une des instances qui a défini ce qu'est le logiciel libre, en compte quatre différentes. D'abord, il y a la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. Bon, jusque-là, tout va bien. Il y a assez peu de logiciels qui ne vous laissent pas les utiliser. Après, on trouve la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins. Bon, ça, c'est la liberté, en gros, de regarder sous le capot et de bidouiller le logiciel. Ensuite, on a la liberté de redistribuer des copies du programme, qui désigne donc là une liberté liée à une question juridique de propriété. Et enfin, la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ses améliorations au public. Là, c'est à mon sens la plus intéressante de toutes. En droit, cette liberté brise la frontière conceptuelle entre l'utilisateur d'un côté et le concepteur de l'autre. La relation induite par le logiciel n'est plus unilatérale, mais elle devient multiple.
Bon, d'accord, mais elle est où la dimension éthique du logiciel libre ?
Eh bien, elle est surtout liée à son statut de propriété. Alors j'en ai parlé à la semaine dernière. La liberté, dans nos sociétés libérales, c'est avant tout la liberté de disposer d'un bien. Or, je l'ai aussi dit la dernière fois, la propriété sur le net, ça a quelque chose de très subtil. Comme n'importe quel contenu ou code peut être copié et reproduit à loisir sur le net, toutes les propriétés de logiciels sont pensées sur le mode de la propriété intellectuelle. Le code d'un logiciel libre se met, lui, hors de portée de cette propriété ils sont dans le domaine public. C'est une propriété symbolique, non contraignante, puisque ces logiciels sont placés sous licence libre. Sur le net, il n'y a pas vraiment de différence dans l'idée entre un logiciel et un livre ou une partition. C'est le contenu qui importe. Or, un code libre ou public n'appartient à personne. Ou plutôt, il n'appartient exclusivement à personne. C'est-à-dire qu'il appartient à tout le monde. Et c'est en cela que la liberté portée par le projet du logiciel libre est éthique. Il abolit non seulement la frontière entre le concepteur et l'utilisateur, mais aussi la frontière qui sépare les propriétaires des non-propriétaires. Tout le monde est propriétaire d'une certaine manière d'un logiciel libre. Tout le monde en est aussi l'utilisateur. Le logiciel ne permet donc pas du tout une liberté libérale, puisque personne n'est exclusivement son propriétaire. Au contraire, elle crée une nouvelle forme de liberté collaborative dans son application.
Merci Lucas. Loïc Soulas, vous avez une réaction par rapport à la chronique de Lucas sur son aspect philosophique ?
Juste sur la liberté zéro du logiciel libre, sur le fait de pouvoir l'utiliser comme on le souhaite, c'est pas une réalité, c'est les logiciels privateurs. C'est tout ce qui est privatisé, c'est pas une réalité, quoi. On va se retrouver avec des logiciels qu'on ne peut exécuter que sur un seul système d'exploitation ou que dans un domaine bien précis. On veut l'adapter à un autre domaine, on va nous dire non, ça ne rentre pas dans la licence, vous avez cassé le droit de licence d'utilisation ou quoi que ce soit. Alors que là, le libre, cette liberté zéro dit vous l'utilisez comme vous voulez, que ça soit à la maison, au boulot, pour faire ce que vous voulez, même si c'était pas le but original du logiciel. Et ça, c'est vrai que dans le logiciel libre. Ça n'existe pas dans tout ce qui est privatisé.
Mais par exemple, il y a des logiciels libres qui sont pas disponibles sur certains OS. Ça, c'est des choses qui
alors
qui
là, existent. Mais justement,
c'est des questions techniques. Ouais.
Ouais, mais après là, c'est technique, c'est qu'il faut se reporter à l'autre liberté, qui est qu'on peut améliorer le code, le changer et le recoder pour un autre système d'exploitation. Ce qu'on pourrait pas faire avec un. Pour un exemple de logiciel, les logiciels de comptabilité avec les lois qui obligent de prendre les logiciels de comptabilité avec des chartes. Moi, je l'ai vécu. Hein, je n'utilise que du GNU Linux. Et quand j'ai appelé le support du logiciel de compta, on m'a sorti ah oui, mais non, le support marche pas avec vous. Vous êtes sur Linux.
Ah oui, d'accord. Mmh.
Voilà, voilà. Alors ça, par exemple, ça enlève la liberté zéro d'une licence libre. C'est vraiment du privé.
Alors que quand par exemple donc un logiciel libre n'est pas compatible avec votre OS, c'est sous-entendu, vous avez qu'à le bidouiller vous-même pour le rendre compatible.
Exactement.
D'accord.
C'est ça.
Théo,
oui, du coup, moi j'avais une question. Si j'ai bien compris, donc il y a quatre éléments définis par la FSF pour dire que quelque chose est libre, notamment donc pouvoir redistribuer le programme comme on veut. Du coup, j'ai un peu une question sur le modèle économique du libre. De ce que j'ai compris, la définition dite par Florian plus tôt, c'est pas forcément libre ne veut pas dire gratuit.
Et mais open source n'est pas forcément. Enfin. C'est ça, il y a une différence aussi entre les deux.
Mais du coup, comment est-ce que on peut, être développeur libre et, dans le libre et en vivre, par exemple.
Alors, le fait de redistribuer le code, en fait, le code est défini comme un bien commun. Effectivement, c'est un petit peu ce que veut Stallman à l'origine. Mais après, rien n'empêche, tout le monde n'est pas capable de relire le code, tout le monde n'est pas capable de l'exécuter. Et l'entreprise qui a créé ce code libre peut proposer du support, de l'aide à l'installation et même un suivi, une maintenance avec l'utilisateur final. Alors, souvent les entreprises, hein, je parle pas franchement du particulier. Et c'est comme ça que des entreprises, on a des entreprises françaises qui travaillent dans le libre et qui fonctionnent très bien, et il fonctionne comme ça. Moi, par exemple, je peux télécharger, l'utiliser, le revendre et faire quoi que ce soit sans leur demander rien. Une entreprise qui veut se fier à eux prend un support avec cette entreprise et ils jouent là-dessus, en fait.
D'accord, ils jouent sur en fait, le fait que leur outil soit peut-être un peu compliqué à utiliser pour une personne lambda, enfin, ou une entreprise lambda, et ils vendent, en fait, l'utiliser. Enfin,
ils vendent leur savoir-faire. Ouais, ils vendent leur savoir-faire. Ils vendent pas juste de la matière. Ouais, ils vendent un savoir-faire, une connaissance et une aide continue. Quoi.
Ouais, voilà. Le tertiaire en fait du numérique.
Exactement.
J'aurais une question sur le. En fait, tout simplement, si avec tous les avantages que présente l'open source, pourquoi tout n'est pas open source? Pour faire simple, pourquoi on cherche à craquer Photoshop quand on a GIMP à côté?
Alors parce qu'il y a des aficionados de Photoshop, hein, ça c'est sûr et certain. Parce que quand on fait une formation, souvent on nous apprend à la faire sous Photoshop pour les.
Tout c'est ce qui est encore un problème d'éducation.
Et souvent, ouais, ça, c'est le plus gros problème, quoi. Et puis il y a des forces commerciales que GIMP n'a pas pour pouvoir promouvoir leur solution, quoi. Ils sont pas beaucoup de développeurs. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais
c'était un exemple.
Ouais, on a du mal à le croire, mais alors il faudra vérifier. Franchement, je crois qu'ils sont quatre.
D'accord.
Réels développeurs. Ouais, et donc quand on voit la force du logiciel à côté d'un Photoshop où ils sont, j'ai aucune idée. Non, là pour la peine Photoshop, je sais pas, mais c'est bien au-delà. Voilà, la différence est énorme.
Lucas, tu voulais dire quelque chose?
Alors, ils sont, attends, j'ai une 4 développeurs officiels. Après, c'est open source, il y a tout le monde peut ramener des choses dessus. Hein. Attention, il y a une communauté énorme derrière. Hein.
Non, je voulais savoir s'il était possible d'établir des ponts entre le monde du libre et donc le monde. Alors, il est lourdement connoté ce mot, mais le monde pirate, dans le sens où il y a des partis en Europe qui sont les partis pirates et qui proposent d'abolir la propriété intellectuelle. Dans toute sa globalité, c'est-à-dire que on pourrait plus poser de texte ou de musique ou plus rien en fait d'intellectuel n'aurait de propriété. Est-ce qu'il y a des ponts qui sont créés entre ces communautés là?
Oh non, là je saurais pas répondre.
La notion collaborative du coup, c'est-à-dire que en fait un logiciel open source, c'est pas qu'il appartient à personne, mais c'est que tout le monde peut le modifier, c'est ça? Enfin, pas peut le modifier, mais peut réécrire, peut voir les corrections qu'il y a dessus. Moi, je me pose la question, déjà corrigez-moi si j'ai rien compris, et si et comment ça se traduit dans votre structure?
Alors, pour l'utilisateur lambda, l'avantage du libre, c'est que pour lui, il a une vision gratuite. Alors, c'est pas vrai, hein, le libre n'est pas gratuit en soi, parce que c'est pas l'idée, mais il a une version gratuite. Après, il peut l'utiliser et la passer. Dans le professionnel, effectivement, on va pouvoir adapter le code à ses besoins. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué. On a une évolution beaucoup plus rapide de ce qu'on veut faire. Et on n'est pas bloqué par toutes les lois, quoi. En fait, si on lit les lois, on peut être bloqué. Et dernier point là-dessus, c'est... Comment expliquer ça? C'est un peu compliqué. Je cherche un mot simple. Mais par exemple, si on prend l'analogie avec la liberté d'expression, on n'en est pas trop loin, en fait. Ça veut dire que si on bloque tout, par exemple dans les médias, hein, la radio, alors on est à la radio, si par exemple à chaque fois qu'on parle, on est soumis à des réglementations et puis des brevets et tout ça, on dirait pas grand-chose. Et le libre, pouvoir lire le code, et puis vous prendre des articles sur Internet, les condenser pour refaire un autre article à vous, vous avez le droit, ça fait partie d'un esprit du libre, quoi, de l'échange.
Et bah maintenant, j'aimerais penser à nos auditeurs convaincus. Comment on passe à l'open source et au libre? Si demain, j'ai envie de trouver une alternative à mes logiciels préférés, propriétaires, comment je fais? Est-ce que vous avez des conseils à donner?
Alors déjà, bah, regardez sur Internet. Il y a, vu que c'est une communauté énorme, on peut aller voir, il y a plein de documentation. Après, en plus humain, il y a beaucoup d'associations dans beaucoup de villes sur Linux. Il peut y avoir aussi des rencontres Linux pour pouvoir passer le pas, quoi. Et des fois, c'est plus sympa de voir les gens en direct, des explications, que par Internet. Mais quand on veut, en fait, il y a moyen de trouver facilement à passer au libre.
Oui, on vous invite d'ailleurs à vous renseigner auprès de l'association Appel, l'association qui gère Linux à Poitiers. Bon, bah, on a essayé de les inviter, mais... ils nous ont pas trop répondu, mais c'est les seuls, en tout cas ici à Poitiers, qui sont au niveau associatif, j'ai l'impression, qui parlent de ces choses-là, que de ces thématiques-là, de Linux, et qui vous accompagnent dans une transition à l'OS gratuit, enfin l'OS open et gratuit. Nous arrivons à la fin de l'émission, mais avant de nous quitter, comme d'habitude, on va faire un petit point sur les événements numériques à venir. Du 2 au 4 décembre, le réseau professionnel du numérique vous propose une formation au framework Vue.js à Cobalt. Évidemment, cet événement s'adresse aux connaisseurs des langages HTML, CSS et JavaScript. Si vous êtes moins à l'aise avec votre système d'exploitation Windows 10 et que tout ce qu'on a dit dans cette émission ne vous a pas convaincu de passer à Linux, l'espace Mendes France vous propose une formation pour vous initier à Windows 10. C'est ce mardi 3 décembre. Pour finir, si vous n'avez pas peur de vous plonger dans la gestion de projets de manière ludique, l'association Poitiers Web Nerds proposera le 6 décembre prochain une soirée jeux agiles à la Taverne du Geek, et c'est animé par deux professionnels du web. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur pawn-association.org. Loïc Soulas, merci d'avoir accepté de discuter avec nous de l'open source malgré le fait que j'ai écorché votre prénom et qu'on ait commis une petite...
C'est vraiment pas grave. Merci.
On rappelle que cette émission et les précédentes sont disponibles en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et les autres. Juste avant de laisser la place à l'équipe de Glitch, on va s'écouter Alta avec leur titre éponyme Alta. Bonne soirée sur Pulsar et à la semaine prochaine. To be seen, embarrassing care, I was scared, unaware of my dreams, just an heir to what my parents had seen, how unfair it all seems, collar to throat was the barrio joke, had three flowers, a comb, and some dollar store lokes, iron and rags, keep your eye on the sack, a disguise for those admired, but never fired a mag, I grew tired of that, I grew eyes on my back, they drew iron when I drew rhymes, now who's firing back, told myself, keep your mind on them rats, knowing damn well this shit's chess, Denzel in distress, for the damsel, lying on tracks, 719, my spring training days, clever with rhymes.
sometimes I ain't explaining a thing, though I ain't claiming the bang. I say the criminal slang, I speak better with signs, subliminal hymnals, lines look minimal until I paint a king. Be a ride, me a mind, who can make the claim? When it's minds like Stevens who create the game. Be a Tut, Louis, a Midas, the mistakes of James. These times got me relying on the king of canes, cause ain't a hand that can change a thing. Can you blame the ring? We'll paint a man with some angel wings, so keep it moving. My style's deep, see me confusing me in 20 in a league of our own. Where have you been? Where art thou? You who trend? Where is our now? Please let me clue you in. I said 20, thou league, see, I drop jewels and use the last three bars and parts to prelude. Then Sylvan said, I see you, man. Brought my skills from LA to the EU land and form altar. And on this altar, I offer my language so all words are all burned, sort of like an autumn. See my loose leaf changing in my too deep, say it and we'll all learn. I said, language altar and I burn. I'm saying pages are getting red as they all turn, but they on an altar. I'm saying they all burn. Words are getting purged in the flames, call us on. If all of our songs earn and we get paid well, is it cause we all earn that only fame sells? If you're not at all concerned, if we can pay well, you can take a name, just make sure that it's framed well and hang it high. Expose it to every angle. Guess it's all the same when they claim no one can tell. Maybe it's a way that our name spells. Alter, a little lower than the angels.
Si tu veux surfer sur Internet, suis-moi, on va t'équiper.